C'est le nouveau rendez-vous de la rédaction. Depuis le début de l'année, une fois par mois, nous vous proposons de nous arrêter sur un sujet touchant à l'actualité environnementale. Et aujourd'hui, direction l'île de la Réunion, à qui la nouvelle loi sur la transition énergétique de 2015 a fixé un objectif pour le moins ambitieux, devenir totalement autonome d'ici 2030, ou dit autrement, elle ne devra plus pouvoir importer d'énergie fossile qui, encore actuellement, garantissent pourtant 65% des besoins en électricité de l'île. Véronique Robérotte, bonjour.
Bonjour.
Alors la Réunion ne part pas de rien non plus, puisqu'elle produit tout de même aujourd'hui 35% de son électricité avec des énergies renouvelables. Reste que le défi de 100% de renouvelables dans un peu plus de 10 ans maintenant est un vrai défi. Et est-il tenable? Peut-être pour commencer, Véronique, pouvez-vous nous expliquer ce qui fait la particularité de la Réunion, qui de par sa situation géographique dans l'océan Indien n'est tout simplement pas interconnectée?
Voilà la différence d'un système interconnecté, comme ici en métropole, où on peut exporter de l'énergie si on en a trop. On peut aussi à l'inverse importer de l'énergie de chez nos voisins en cas de pénurie. Eh bien, un système non interconnecté, comme la Réunion, oblige à produire la même quantité d'énergie que celle consommée. Ce vase clos, il sera d'autant plus contraignant à l'avenir que demain, bien, le réseau électrique devra intégrer des énergies renouvelables en grande quantité, des énergies dites intermittentes, comme le soleil ou l'éolien. Difficile donc d'avoir dans ces conditions une production constante avec des énergies à la production aléatoire, même si, on va le voir, ce n'est plus vraiment un problème maintenant.
Alors, atteindre l'autonomie énergétique de la Réunion en 2030, en s'appuyant notamment donc sur les énergies renouvelables, cela signifie d'abord trouver des substituts au charbon, cette énergie fossile qui est aujourd'hui importée en grande quantité, et surtout le charbon qui alimente deux grosses centrales thermiques de l'île de la Réunion.
Les centrales de Gol et du Bois Rouge, elles turbinent donc à la bagasse. C'est un déchet de la canne à sucre, mais elles turbinent surtout au charbon importé massivement d'Afrique du Sud. L'idée, eh bien, c'est de remplacer le charbon par du bois, par de la biomasse et la gage déchets verts. Il y a beaucoup de forêts à la Réunion. L'Office national, en tout cas, des forêts, travaille à l'émergence d'une filière bois-énergie. Elle n'existe pas. Sylvain Léonard est directeur de l'ONF à La Réunion.
La conversion de ces deux centrales bagasse charbon à 100% biomasse.
Décarbonisée,
il va y avoir besoin de 300 à 500 000 tonnes de biomasse. Ça va permettre de valoriser des sous-produits ou des coproduits à la fois de l'élagage et de la production forestière. Et puis, c'est vertueux puisque une nouvelle filière crée inévitablement des emplois. Ça va nous permettre de faire de la sylviculture, donc de mieux gérer nos forêts et avoir un débouché qui jusqu'ici n'existait pas. Il semble que l'île de la Réunion pourra produire 30% des besoins de ce combustible bois-énergie. Donc 70% devra être importé.
Vous avez bien entendu, 30% de bois-énergie produit sur place, 70% de plaquettes de bois importées, a priori d'Amérique du Nord, amenées donc par bateau à l'avenir. Ce n'est pas très vertueux, mais c'est le premier défi, vous dit sur place EDF SEI, SEI pour Système Énergétique Insulaire, en charge à la Réunion eh bien, d'une partie de la production d'électricité des centrales hydrauliques, surtout, et en position aussi de monopole sur la gestion du réseau électrique. Pourquoi ? Parce que ces centrales qui, demain, fonctionneront donc à la biomasse, produiront de l'électricité. On y revient de façon stable. C'est pas l'énergie que préfère EDF, qui doit faire avec ses énergies renouvelables intermittentes. La production donc aléatoire, cela vient compliquer la gestion, on le comprend bien, d'un réseau électrique.
Sauf que là aussi, Véronique, les choses évoluent vite. L'intermittence n'est plus vraiment un problème, puisqu'on sait stocker aujourd'hui l'énergie produite par le renouvelable et l'injecter, par exemple, dans le réseau lorsque c'est nécessaire.
Alors, à La Réunion, tout le monde vous parle de ce moment du pic de la marmite à riz. C'est en fin de journée quand les familles font cuire le riz. C'est la base de l'alimentation réunionnaise. Donc, la consommation, à ce moment-là, d'électricité fait un bond. Et c'est là qu'on active les batteries de stockage. Obligation, en tout cas, de stocker pour les sociétés qui s'installent à La Réunion. C'est le cas pour la société Cadran. C'est une filiale de Total. Elle travaille en ce moment à la modernisation du premier parc éolien de l'île. Optimiser, moderniser, c'est l'autre façon aussi d'accroître la quantité d'électricité sur l'île. Produire plus sur des sites déjà existants. Gaëlle Vallée est responsable du développement océan Indien de Cadran.
Et on va aujourd'hui démonter les 37 éoliennes historiques de ce site pour en installer 9, seulement 9, mais par contre 9 plus puissantes, plus grandes. On va doubler la puissance nominale du projet et quasiment tripler la production en termes de kilowattheures injectés sur le réseau. Le gestionnaire du réseau, EDF SEI, nous oblige à accompagner nos projets d'énergie renouvelable, d'accompagner ces projets avec des systèmes de stockage. Du stockage qui va permettre à la fois de réguler la production et également, surtout, de la prévoir et de pouvoir annoncer de la veille pour le lendemain ce qu'on va injecter. On n'est plus sur des systèmes dits intermittents, mais sur une énergie renouvelable prévisible.
Alors, dans ce parc éolien, Véronique, ont été placés au pied donc des éoliennes des panneaux solaires. Et pourquoi ? Parce que le foncier, en réalité, est assez rare à La Réunion, où le parc national de l'île est classé patrimoine mondial de l'UNESCO et couvre 40% de la surface de l'île.
C'est une vraie contrainte, car les sites à aménager ne sont pas infinis. Chaque toit, donc chaque ombrière, comme sur des parkings sur l'île, est convoité pour y poser des panneaux solaires, sur des sites délaissés aussi, des friches. Comme dans l'enceinte d'un aéroport, c'est le cas de l'aéroport de Saint-Louis. Près de 300 000 euros de recettes pour la commune qui a accepté ces panneaux solaires. Le maire de la commune, Patrick Vallée, en demande même plus pour lui et pour la planète.
Non seulement il faut s'y mettre, réduire l'empreinte carbone, mais également peut-être changer les modes de fonctionnement dans sa vie quotidienne en termes de consommation d'électricité, peut-être construire autrement pour éviter d'avoir climatisé les maisons, faire des économies aussi dans sa gestion quotidienne.
Vous avez des projets aussi de mettre des panneaux solaires sur les bâtiments communaux. Voilà. Ça, c'est la deuxième étape après votre centrale solaire près de l'aéroport.
Voilà. Voilà, donc, mais nous sommes en attente de validation par la commission de l'énergie.
C'est compliqué tout ça ?
Ah, c'est long, hein ? C'est extrêmement long, c'est extrêmement compliqué. Bon, on va y arriver.
Voilà, lenteur, certes, à publier des appels d'offres de la part de la Commission de régulation de l'énergie, mais pour Jérôme Biret du syndicat des énergies renouvelables, lui va plus loin, alors que les représentants de l'État à La Réunion laissent penser que 100% en 2030 ce sera difficile. Eh bien, Jérôme Biret pointe surtout un manque de vision et de gouvernance collective, peut-être un peu trop de monopole, on l'écoute.
On est dans une phase qui est délicate, puisque on doit à la fois se projeter dans cet objectif d'autonomie, qui est un objectif ambitieux, hein, il faut le reconnaître, et on aura des difficultés, on le sait bien, puisque certaines solutions qu'on imagine aujourd'hui ne sont pas forcément opérationnelles. Donc il faut aussi construire l'innovation, il faut aussi construire tout ce qui fera demain ce nouveau régime énergétique autonome. Aujourd'hui, la phase, c'est les porteurs de projets poussent leurs idées, et donc on est dans un espèce de puzzle où chacun a une idée, et on essaye de concilier tout ça. C'est tout ça qu'il faut structurer collectivement. On ne peut pas se contenter d'une gouvernance où on fait une réunion annuelle, ça n'existe pas. C'est toute la problématique sociale, la création d'emplois, voire la destruction d'emplois ou les reconversions, donc il faut aussi travailler là-dessus. On est aujourd'hui un peu comme sur les projets, c'est-à-dire qu'on met des petites briques côte à côte, mais sans avoir l'objectif final et sans essayer de construire ensemble la fameuse trajectoire que l'on cherche.
Et vous avez pu constater sur place, Véronique, que La Réunion est aujourd'hui un laboratoire en termes d'innovation.
Oui, il en faudra. Il y a des projets pour climatiser, par exemple, des bâtiments publics avec de l'eau de mer. Une société travaille aussi sur la mise au point d'une route solaire. C'est une version améliorée de cette fameuse route solaire inaugurée dans l'Orne par Ségolène Royal en 2015. Des panneaux solaires donc au sol, toujours plus performants. Patrick Paul Verrelli est directeur technique de Colas Océan Indien.
C'est le même procédé, c'est le même concept, c'est-à-dire d'utiliser la route comme support pour produire de l'énergie. C'est le même principe. On part du constat que la route est 90% du temps exposée au ciel. En dehors de son utilisation pour la circulation des véhicules, elle n'est utile à rien. Donc il était hors de question de ne pas lui rajouter une fonction supplémentaire et de pouvoir utiliser ce support de bonne qualité, capable de supporter des sollicitations importantes, pour lui rajouter une fonction supplémentaire, en l'occurrence de la production d'énergie.
Voilà, on aurait pu parler aussi économie d'énergie. Il en faudra pour atteindre ce 100% d'autonomie à La Réunion. En tout cas, on a des plans d'économie, de maîtrise d'énergie et des aides qui vont dans ce sens.
Merci Véronique Robert-Rotton.